Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous. Il est l'heure de nous retrouver dans cet espace de confidence. Nous avons 2 heures à passer ensemble. 2 heures pour parler de nos vies et surtout 2 heures pour comprendre que chacun de nous est unique et que le meilleur moyen d'être toujours malheureux, eh bien, c'est de nous comparer sans cesse aux autres. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de copier les autres sans se rendre compte que dans la vie, tout le monde a un questionnaire différent. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin et pour venir me parler de vous, appelez-moi au 3921. Venez comme vous êtes, ce sera très bien comme ça. Et si pendant l'émission, vous avez envie de participer par SMS, réagir à ce qui se dit, apporter une idée, un soutien, vous tapez le 739-21, suivi du menu et de votre message. Cindy et Nicolas sont prêts à vous accueillir au Standard Europe 1, 39-21 donc, et Julien est à la réalisation. On n'attend plus que vous.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Maëva. Bonsoir à vous Maëva.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci, je suis désolée de vous embêter,
mais vous plaisantez, j'espère. On est là pour ça.
Mais non, mais en fait, je vous écoute, mais depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que je pensais pas avoir cet appel là ce soir, mais je sais plus en fait vers qui ou vers quoi me tourner. Je suis
perdue.
Ouais, et puis un mélange de peur et de colère.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors en fait, j'ai un souci avec ma fille, enfin plus précisément avec son papa. Donc j'ai ma fille qui a 8 ans. On est séparés avec son papa depuis 1 an, donc ça fait 7 ans maintenant. Oui. Où on s'est séparés en fait dû à ses problèmes d'alcool.
Donc c'est vous qui avez demandé à partir, j'imagine.
Voilà. Oui. J'ai demandé à partir, mais tout en proposant quand même la garde partagée une semaine, un arrangement à l'amiable, sous condition qu'il se tienne à carreau, au moins quand il avait sa fille, quoi.
Pour quelle raison avez-vous fait ce choix vous-même?
Parce que je pars du principe qu'un enfant a autant besoin de son père que de sa mère.
Ok, oui, tout à fait.
Voilà. D'accord. Donc j'ai tout fait en sorte pour que tout se passe bien. Nous avons gardé vraiment une entente vraiment très cordiale jusqu'à l'année dernière. Où moi j'ai refait ma vie, mais il venait chez nous, il restait pendant des heures, il mangeait même avec nous, on faisait l'anniversaire de notre fille ensemble, même quand ou une fois c'était chez mes parents, il était même convié. Enfin.
Quand vous dites nous, c'est avec votre nouveau conjoint?
Oui.
Ça allait jusque là, d'accord.
Ah oui, vraiment une très bonne entente par rapport à ma fille. Où l'été, on faisait 15 jours pour éviter que ce soit trop long, quoi. Un mois, c'est trop long, que ce soit pour la petite ou même pour nous. Hein. Mmh. Et puis, mais j'avais toujours plus ou moins un œil. Quand il a refait sa vie, quand ça n'allait pas avec sa conjointe, il s'est confié à moi parce qu'il a perdu du contact avec tous ses amis, tout ça, depuis plusieurs années maintenant.
C'est-à-dire que quand vous l'avez quitté, vous me dites à cause de l'alcool, mais ça allait jusqu'où l'alcoolisme à ce moment-là? Ça se manifestait comment chez lui?
Il buvait beaucoup, je m'en rendais compte, parce que moi qui bois vraiment très très peu ou très occasionnellement, l'alcool sent très très fort. J'ai retrouvé moi des bouteilles d'alcool cachées, alors quand j'en suis arrivée là, c'était déjà trop pour moi. J'en avais peur de lui laisser notre fille quand même, parce que quand je revenais du boulot et que je voyais qu'il y avait 2 bouteilles de pinot descendu, tout ça, c'était pas possible. Un jour, je n'ai pas le permis. Un jour, j'ai dû toucher au volant quand même, parce que sinon, on allait droit dans un mur. Alors, sa famille est au courant du problème, mais il a libre accès aux bouteilles des parents, tout. Hein.
Et lui, est-ce qu'il a conscience du problème? Est-ce qu'il a essayé de se soigner au moins?
Alors, il a conscience du problème, oui et non. Parce que par moment, il est capable de dire « oui, j'ai un souci avec l'alcool mm-hmm. ». Et puis d'autres moments où ça n'a jamais existé, quoi. Je n'ai aucun problème. Ouais. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. J'ai tout inventé. Alors que oui, il a eu des traitements. Alors il allait voir son médecin traitant parce que je lui mettais un petit peu le couteau sous la gorge. Hein. Il allait voir le médecin traitant, donc il lui donnait un traitement, mais il n'y avait aucun suivi, c'était pas assez en fait. Donc il le prenait pendant une semaine et puis il arrêtait ou il consommait quand même de l'alcool en cachette par-dessus.
Oui, donc rien quoi. Il était comment quand il avait bu ?
Alors, donc il se rendait malade, hein, bien évidemment. Alors j'ai envie de dire, tant mieux. J'avais espoir que...
Ça le dégoûte lui-même.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et bon, malheureusement, non, ça n'est pas arrivé jusque-là. Au point où il s'est brouillé avec ses amis par rapport à ça, où il est devenu violent physiquement, mais sur des biens matériels, hein, sur un mur, voilà.
Ah oui, donc ça l'a rendu violent quand même. Même s'il n'a pas tapé sur des gens, il a eu des gestes qui auraient pu être dangereux.
Oui. D'accord. Moi, la première fois où je l'ai vu comme ça, j'étais enceinte. Ça m'a fait peur, mais c'était pas contre moi, donc ça allait. Je me voilais peut-être, je pense, un petit peu la face à ce moment-là.
Ça doit pas être facile à ce moment-là aussi d'accepter une situation pareille.
Non, je portais son enfant hein, oui. Quand même. Hein, voilà. Et puis, au un an de ma fille, moi j'en pouvais plus, hein, j'avais peur. Et je recommençais un nouveau boulot, moi, depuis quelques mois, donc j'avais pas eu de vacances cet été-là. Il est parti avec ses parents, donc moi je finissais jamais vraiment aux mêmes horaires, donc j'appelais toujours à des horaires différentes. Et puis un jour, j'arrivais jamais à le joindre, donc j'appelle sa mère. Sa mère, j'ai bien vu qu'elle hésitait à me le passer, et là, il était incapable de parler, mais incapable. Alors certes, il y avait ses parents, mais bon, le papa, c'est quand même lui, c'est à lui de gérer.
On a l'impression, en vous écoutant, qu'il y avait une sorte de presque de tolérance de la part de ses parents, de laisser faire, quoi.
Mais c'est ça. Il y a un an, on va y venir, il y a eu un souci, je l'ai eu au téléphone... Elle m'a dit, mais vas-y, je suis désemparée, je vois mon fils se détruire, je ne sais plus quoi faire, vas-y. Et puis, après, une semaine après, quand je lui demande, est-ce que vous êtes prête à ça ? Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. En fait, je ne vois pas ce que tu me demandes.
Oh là là, oui. Elle n'assume pas du tout. Quoi.
Mais voilà, alors ce n'est pas l'aider, parce qu'il a un réel problème à l'heure d'aujourd'hui. Et donc voilà, on en est arrivé là. Donc pendant plusieurs années, voilà, on est resté avec une très très bonne entente. Vraiment, j'ai toujours fait en sorte à ce que tout se passe bien.
C'est presque miraculeux, hein. Vraiment, vous avez été forte parce que c'est compliqué dans un contexte comme celui-là.
J'étais fière en me disant.
Oui, vous pouvez.
Oui, on a loupé, on a foiré notre vie de couple, mais notre vie de famille, elle est réussie. Et j'étais fière de ça. Et l'année dernière, c'était par rapport aux vacances d'été. Il voulait empiéter sur mes vacances. Donc, moi, c'est ce que je dis. Non, parce que mon employeur, lui, ne va pas décaler les miennes. Et donc, ça, c'est parti en insultes, tout ça. Donc, il est parti en colère de chez moi. Donc, donc c'est passé. Je suis passée à autre chose. Mais c'est resté un petit peu en travers quand même de la gorge. Et en octobre dernier, donc pareil, on amène notre fille, donc il reste un petit peu à la maison, comme d'habitude, hein, pendant une heure, deux heures.
Ah oui, c'est pas un petit peu, c'est il s'installe quand même.
Ah oui, il est resté. Si on pouvait l'inviter à manger tous les dimanches soirs, il n'y avait pas de problème, quoi.
D'accord.
Donc, Et puis, cette fois-là, c'est venu, c'est que c'est notre fille, donc le mode de garde, c'est les semaines impair chez nous, les semaines paires chez lui. Ça a toujours été comme ça. Sauf que cette année, enfin l'année dernière, je veux dire, donc 2020 finissait en semaine impaire et commençait en semaine impaire. On s'est organisé comme ça, puisque nous, mon conjoint et moi, professionnellement, on travaille aussi des week-ends. Donc on s'est organisé de ne pas travailler les semaines où il y avait ma fille, justement. Mais lui, il ne l'a pas entendu de cette oreille.
Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a des obligations ou pas du tout ?
Alors, il travaille, oui, mais il ne travaille pas du tout le week-end.
Oui, donc c'est.
Donc, lui,
il pourrait être un peu plus souple.
Voilà, oui, mais en fait, le problème, c'est que Il marche avec des habitudes. Et à partir du moment où on change un petit peu les habitudes, oulala, là c'est la fin du monde, c'est ça. Donc du coup, en désaccord, donc il a recommencé à m'insulter. Donc là, par contre, ça n'est pas passé parce que j'ai toujours été correcte envers lui, même si on n'était pas toujours d'accord. Je suis toujours restée correcte et courtoise. D'autant plus que là, il y avait notre fille quand même dans la pièce. Et puis là, il a commencé vraiment à être menaçant. Donc, je suis bête aussi, je l'avoue, puisque quand il a dit méfie-toi, de toute façon, je vais t'en coller une et puis une belle, je dis par contre, vas-y, mais te trompe pas. Alors, là, par contre, je ne l'ai pas vu venir.
Ah.
Et je l'ai prise, je l'ai prise. Et puis, du coup, mon conjoint s'est interposé, il a pris mon conjoint par le cou en le menaçant de lui mettre un coup de poing.
Il a franchi la ligne ce soir-là. Hein.
Ah oui. Ouais. Là, c'était le pas de ne pas franchir avec moi. Par contre, je veux bien essuyer les insultes, tout ça. C'est dur, mais j'encaisse. Par contre, la violence physique, surtout pas. Et puis là, d'autant plus que ma fille était présente. Non, à son âge, elle n'a pas à subir des choses comme ça, quoi. C'est pas possible. Du coup, je l'ai virée. Moi, dès le lendemain, je suis allée porter plainte.
C'était quand, ça, voilà. Dites-moi.
Donc, en octobre 2020.
D'accord, voilà. Donc ça fait un peu plus d'un an, quoi.
C'est ça, donc j'ai porté plainte, donc avec le Covid, tout ça, tout a été prolongé, hein, en fait, voilà. Donc j'ai porté plainte, je suis allée voir l'ordre des avocats, qui m'ont orientée vers une avocate immédiatement, qui elle m'a dit, votre fille est en danger, vous la gardez, vous ne la ramenez pas chez son père la semaine d'après.
Oh, mais si vous ne le déclarez pas quelque part, j'imagine que ce n'est pas si simple.
Alors, du coup, c'était quand même l'avocate, moi, qui me disait ça. Alors, je dis oui, mais alors, du coup, comment il va être au courant, tout ça? De là, on a convenu, parce que j'ai toujours voulu être sincère avec lui. J'ai toujours voulu qu'il soit au courant par moi d'abord, bien que sachant qu'il serait au courant, de toute façon, par la police ou autre, hein.
Oui, ça me paraît une façon intelligente de gérer la situation. Ça évite aussi le conflit permanent, quoi.
C'est ça. Donc, ouais. Là, il l'a mal pris. De toute façon, c'est ce que je voulais depuis longtemps.
C'est ce qu'il a cherché depuis longtemps, surtout.
Oui, mais il n'avait pas de problème d'alcool.
Oui, forcément, oui.
Donc,
vous exagérez aussi à inventer tout le temps des histoires quand il n'y en a pas.
C'est ça, mais alors que tout le monde est au courant, sa famille l'est, mes parents, une fois quand ma fille était petite, qu'on était encore ensemble, on est parti en week-end prolongé avec mes parents, une maison qu'un ami nous avait prêtée, donc c'est quand même gentil, donc c'est bien, c'était vraiment tout ça à lui. Le papa de ma fille s'est levé en pleine nuit pour aller boire dans les bouteilles de cet ami-là.
Oh là.
C'est ma mère qui l'a grillé, donc, donc ma mère elle a les mêmes principes que moi, donc ce n'est pas passé. Je ne suis pas la seule quoi, à voir le problème qu'il a, même sa mère est au courant, son père aussi, parce que quand on s'est séparés, il l'a tellement mal pris quand je lui ai annoncé que j'ai appelé son père, avec qui j'ai entretenu de bons rapports, en disant, j'ai annoncé ça, il ne va pas bien, vous, il vous écoutera. Voilà, je ne voulais pas qu'il fasse n'importe quoi.
Ouais. Est-ce que vous avez compris pourquoi il est comme ça? Pourquoi il boit? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie?
Je ne sais pas. En fait, quand on s'est mis ensemble, il buvait, mais je ne voyais pas qu'il buvait, moi, à ce point-là. En fait, il se cachait tellement bien que... je ne le voyais pas. Et il est capable de freiner par moments. Je ne vais pas dire d'arrêter, mais au moins de freiner. Et avec son ex-conjointe, il y a eu des soucis comme ça. Hein, aussi, où là, il a tapé, il était en location, il a détruit une armoire, il a fait un trou dans un mur. C'était que du placo à ce moment-là, donc il a tapé dedans. Voilà.
Ça n'a aucun lien avec vous, c'est un problème entre lui et lui, évidemment.
Voilà.
Mais vous ne savez pas ce qu'il cherche dans l'alcool, vous ne savez pas ce qu'il cherche à oublier ou à noyer, non?
Non, je ne sais pas du tout. J'ai essayé, quand on s'est séparés, j'en ai parlé avec une assistante sociale, avec un addictologue, tout ça, pour essayer de comprendre sa maladie, parce que c'est une maladie, hein, de toute
Bien
façon.
Bien sûr, tout à fait.
Je ne voulais pas le laisser seul, je ne voulais pas l'abandonner, en fait. J'étais prête, même en étant séparée, à l'accompagner dans certaines démarches.
Oui.
Vous voyez ? Et bah, c'est comme je disais, je dis, écoute, on a une fille. Je n'ai pas envie un jour de dire à notre fille, bah, écoute, désolé, mais la bouteille a eu raison de lui.
Il a fait une bêtise, oui.
C'est ça. Hein. C'est, moi, je n'ai pas pu rivaliser avec les courbes d'une bouteille de vodka. Hein. Ça, c'est clair, on n'a pas les mêmes. Hein. Mais c'est triste à dire. Voilà, ma fille là, est rentrée ce soir en me disant, bah, je prends toujours des nouvelles, comment ça a été l'école, tout ça. Et puis avec papa, comment ça a été, qu'est-ce que vous avez fait.
Vous ne vous parlez pas pendant la semaine en question?
Puis maintenant. Ah. Puis depuis un an, non. Ça s'arrête, les seuls échanges que nous avons avec son père, c'est concernant l'école.
Non, pardon, je me suis mal exprimée, je parlais avec votre fille. Est-ce que vous n'échangez pas par téléphone ou par SMS pendant, quand elle est chez son père?
Eh bien non, parce que ma fille, en fait, veut le bien de tout le monde, ne veut blesser ni l'un ni l'autre. Et donc, moi, elle le sait, hein, si elle a besoin d'appeler papa, il n'y a pas de souci, elle appelle papa, c'est déjà arrivé, voilà. Mmh. Par contre, non, chez papa, bah non, parce qu'il en a après nous. Et comme il est persuadé que, de toute façon, je veux lui retirer la garde de notre fille, que je ne cherche que ça, que j'invente les choses.
Oui, donc la petite, la pauvre, elle se tient à carreau, elle essaie de ménager la chèvre et le chou, quoi.
Voilà. Mmh.
D'accord. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous la récupérez et vous ne savez rien de ce qui s'est passé dans les jours précédents.
Eh ben non, non, non. Et en fait, samedi, il m'a envoyé un SMS. Il était 17h. Et donc, il m'expliquait, parce que comme elle a été qu'à contact, donc il y a les trois tests à faire, tout ça. Mm-hmm. Et il m'a expliqué comme quoi, donc, elle était toujours négative et que, de toute façon, qu'il me fournirait donc tous les tests, tout ça. Et que, de toute façon, si elle était positive, qu'il ne l'aurait pas ramenée pour ne pas nous contaminer. Et de la façon où il a tourné le SMS, j'ai dit à mon conjoint, il n'est pas dans son état. Ah. Je le connais par cœur, il n'est pas dans son état. Et là, ma fille me dit que samedi, il s'est levé, il était à peu près midi, qu'il s'est recouché vers les 14h jusqu'à 17h et de 18h jusqu'à presque 22h.
Ah oui, et la petite, elle fait quoi quand c'est comme ça?
Bah, elle s'occupe. Alors, elle a eu la Nintendo Switch à Noël, donc forcément, c'est libre accès à la console. Elle s'occupe comme elle peut, puisque les jeux de société, elle n'y a pas accès, puisqu'il les a planqués tout en haut de l'armoire, puisqu'il ne veut pas jouer avec elle.
Mais elle mange quand même, au moins?
Alors, en fait, le matin, la veille, il lui prépare tout sur la table, donc elle a vraiment un grand choix. Donc, elle mange ce qu'elle veut à l'heure qu'elle veut, puisque lui se lève que sur les coups de midi, hein.
C'est pas structurant, ça, pour elle.
Et non. Le midi, bah, du coup, c'est sandwich, parce que lui, bah, n'a pas faim. Donc, puis, bah, il ne cuisine pas. Moi, là, pendant le confinement, il m'a quand même appelé une fois en me disant, bah, tu lui fais quoi à manger? Bah, écoute, à 7 ans, elle mange comme nous, quoi.
Alors, les petits pots, rayon bébé, c'est fini.
Mais non, j'ai trouvé ça. Enfin, j'attends depuis tant d'années, quand même. Bon.
Il ne sait pas faire, quoi. Il est perdu.
Ben voilà, et puis ben, le McDo était fermé à ce moment-là, donc forcément, il fallait bien trouver une solution pour la nourrir, cette petite. Hein. C'est qu'elle mange bien, en plus. Voilà, mais autrement, ben, toutes les semaines, ben, y a du McDo, toutes les semaines, il y a des sandwichs. Heureusement qu'elle mange à la cantine la semaine, parce que...
Ça rééquilibre un peu.
Ah ouais, non, mais c'est catastrophique, quoi. Vraiment. Alors, quand il disait toute petite, bah non, faut pas lui redonner de biberon, parce qu'elle va finir obèse, et puis tout le monde va se moquer d'elle à l'école, comme moi, ce que j'ai vécu étant petit. Bah oui, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas... c'est, je préférais lui donner un bib supplémentaire petit que lui payer McDo toutes les semaines, ou les sandwichs, tout ça, quoi. Donc, c'est... C'est très, très compliqué. Et puis là, par rapport à samedi, c'est ce qu'elle me disait. Bah, papa, en fait, il me disait qu'il avait mal à l'épaule et au dos. Donc, il a eu des soucis, en effet. Mais là, à tel point que bah, ça le poussait contre les murs. Il est tombé, il est même tombé sur le chat. Il s'allongeait par terre, il fermait les yeux. À un moment donné, quand il a été là couché, il était accroupi. Il n'arrivait même pas à tenir du tout accroupi.
Est-ce qu'elle comprend quand elle vous parle de ça? Est-ce qu'elle comprend exactement ce qui se passe?
Donc, oui, elle comprend, mais elle ne veut pas se l'avouer.
Parce que 7-8 ans, on commence à pouvoir... pas forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais on peut quand même comprendre ce qui se passe. C'est pas...
Voilà. Ben moi, j'ai dû lui expliquer certaines choses depuis un an, du fait que on a eu quand même une enquête d'une assistante sociale, tout ça. Donc, il a fallu que j'explique quand même certaines choses sans trop rentrer non plus dans trop de détails, en allant trop loin, parce que ça reste une enfant.
Voilà, avec ses, il faut rester dans son univers, elle, dans ses mots, elle.
Voilà, c'est ça.
Puis c'est son père.
C'est son père. Alors moi, par contre, je mets un point d'honneur à ne pas le descendre. C'est très familier, mais... Oui. Voilà, parce que non, ça reste son père. Mais alors, comme elle m'a dit ce soir, j'étais inquiète. Je dis, oui, je te comprends. Je dis, mais quand c'est comme ça, je dis, va chez la voisine. Tu dis à la voisine qu'elle appelle les secours. Et puis, elle me fait, mais si la voisine n'est pas là, je dis, tu vas chez les autres voisins. C'est un nouveau lotissement, il y a vraiment beaucoup d'habitants. Et elle me fait, mais la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Je dis, oui, c'est vrai.
Ah, pourquoi vous ne demandez pas de vous appeler vous plutôt ?
Le problème, c'est qu'elle n'a pas accès au téléphone. Elle a un téléphone, un vieux téléphone de son père, mais où il n'y a pas de forfait. Donc, elle peut simplement appeler les numéros d'urgence. Alors, elle connaît le 18. Alors, je lui ai dit, tu connais le 18, c'est des pompiers. Tu connais l'adresse de papa, tu connais l'adresse de maman. Oui. Tu donnes l'adresse, tu ouvres la fenêtre de ta chambre et tu attends que les pompiers viennent. Ils passeront par ta fenêtre avec une échelle, il n'y a pas de souci.
Ça ne vous rassurait pas qu'elle ait un portable tout simple avec votre numéro dessus ?
Alors, justement, c'est ce que je parlais à mon conjoint tout à l'heure. Je ne suis pas pour un portable à cet âge-là. Non, vraiment pas pour. Mais là, ce soir, je me dis, c'est peut-être nécessaire. Et comme il me dit, mon conjoint, il fait, mais il ne lui laissera pas.
Il faut qu'elle le cache.
Ma fille a la langue bien pendue. Mmh. Et elle sera tellement joyeuse d'avoir un portable qu'elle ne pourra pas le cacher. Donc voilà où
Sauf
on
que
en
ça
est.
Peut être, ça peut être un portable qui ne soit pas avec Internet, pas avec tout ça, avec juste...
Ça oui.
Le truc basique de chez Basique avec trois touches pour appeler le numéro essentiel.
C'est ça. Mais c'est vrai que je suis un peu perdue. Alors je me dis, est-ce que je dois... pareil, quand j'ai porté plainte, alors je suis tombée sur une personne où vraiment j'étais effondrée, quoi, parce que suite à l'avocate, moi, qui m'avait dit, surtout, vous ne remettez pas votre fille, elle est en danger, tout ça. Tant que ça ne passe pas devant un juge, vous ne remettez pas votre fille. Comme il n'y avait pas eu de jugement pour notre séparation, donc j'étais dans mon droit. Mm-hmm. Donc, c'est très bien. Donc, je ne la remets pas chez son père. Enfin, voilà. Et moi, au commissariat, on m'a quand même dit, mais vous savez, madame, là, tout se retourne contre vous, puisque c'est non présentation d'enfant,
oui, j'y pensais, mais oui.
Et là, elle m'a expliqué, cette dame, que oui, tout se retournait contre moi, que j'ai tout exagéré, tout ça, qu'ils l'ont entendu, ils n'avaient aucun souci d'alcool, mais il n'y avait pas d'examen demandé ni rien, c'était vraiment que sa parole.
Sur sa bonne foi, qui n'est pas bonne du tout, en fait.
Ah, mais j'étais folle, sincère. Mais j'en ai pleuré. Puis bon, je suis tombée enceinte. Alors, les hormones, moi, au début de grossesse, c'était tout. Mais un truc de fou. Donc là, on est passé de... Alors, du coup, j'ai été obligée de rendre ma fille. Donc on est passé devant le juge des affaires familiales, au mois de décembre, là, seulement. Donc, un an après. Donc, on était d'accord, garde partagée, on reste comme ça. Pour l'été, pareil. Rien ne change, en fait. C'est juste que là, ça a été clarifié. Donc, lui, étant donné que tout ça s'est passé, maintenant, il boit. Pas de souci. Il boit de la tourtelle devant ma fille. C'est des bouteilles de tourtelle devant ma fille. Mais comme ma fille me dit, elle fait, je ne le vois pas les ouvrir. C'est quand il les ouvre, je suis soit aux toilettes, soit dans ma chambre. Donc, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi.
Ah, vous pensez qu'il transvase ?
Ah, de toute façon, il les cache. Il les cache puisqu'il sait que ma fille me parle. Que ce soit à moi, de toute façon, ou même à ma mère. Elle parle beaucoup avec nous, ma fille. Et si elle voit de l'alcool, oui. Elle en parlera. Et c'est très bien que si on est au courant, je ne laisserai pas ça de là.
Quand elle vous disait, la petite, « Maman, je suis inquiète », elle était inquiète pour quoi et pour qui ?
Pour son père, dans l'état où il était. Parce qu'elle avait peur, parce qu'il restait conscient. Il était allongé par terre, mais il était conscient. Parce qu'elle lui a demandé si elle devait appeler les secours.
D'accord. Elle n'avait pas peur pour elle ?
Non. Non, non. C'est pour son père.
Ok.
Non, non, pour elle, non.
Elle vous a jamais dit qu'il a été menaçant, qu'elle a eu très très peur de lui?
Non.
Non, bon, ça c'est déjà quand même un peu rassurant.
Et sincèrement, je ne pense pas, je pourrais me tromper vraiment, mais je ne pense pas qu'il le ferait avec elle. Voilà, à côté de ça, sa fille, franchement, il l'aime. Je n'ai rien à dire là-dessus, je ne vais pas le descendre pour le descendre.
Bien sûr.
Je vais pas inventer n'importe quoi, c'est pas mon but. Moi, mon but, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ma fille puisse être avec son papa, mais tout en étant en sécurité.
Dans des bonnes conditions, évidemment. Mais est-ce que vous en avez parlé avec lui un jour? Ah oui, sinon vous m'avez dit qu'il est dans le déni dès qu'il est sobre, quoi.
Ah bah oui, ah ouais, ouais non. Il y a, alors, non. Il y a 2 ans de ça, un été, il a été hospitalisé. Et donc, il m'a prévenu en disant, bah, écoute, je ne vais pas pouvoir la reprendre ce week-end-là parce que je suis hospitalisée, j'ai un souci, je ne sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Je dis, écoute, il n'y a pas de souci, je vais la garder plus longtemps, il n'y a pas de problème, écoute, soigne-toi, voilà. Et puis, avec ma fille, nous sommes allés le voir, donc à l'hôpital. Donc, bon, il a pu sortir de sa chambre, tout ça, donc tout va bien. Mais par contre, j'ai vu qu'il avait un médicament en intraveineuse. Mmh. Et ça m'a fait tilt, c'est un traitement qu'il avait pour l'alcoolisme, qu'il avait par son médecin traitant. Donc je n'ai rien dit sur le moment, puisqu'il y avait notre fille. Donc ce n'était pas le moment. Et puis le lendemain, mon conjoint, il fait oh, on lui fait la surprise, on y va. Je dis bon, on y va. Et puis on arrive là-bas, il n'était plus là. Mmh. Ben non, il est sorti, tout. Alors j'essaie de le joindre. Je n'y arrivais pas. Il me rappelle un quart d'heure après. Ah ouais, non, mais désolé, je n'ai pas pu te répondre, mais il me faisait des tas d'examens. En plus, ils m'ont fait mal, tout. Mais il était parti, mais dans un délire.
Il ne savait pas que vous saviez.
Oui, bah non.
Et oui.
Donc, je l'ai laissé parler. Et puis, en disant, à un moment donné, je sais, c'est bizarre, écoute, on sort de l'hôpital, on a voulu te faire une surprise, et puis tu n'étais plus là.
Ah.
Et là, il fait, tu viens de foutre en l'air toute ma surprise parce que je voulais vous faire la surprise comme quoi j'étais sortie, quoi.
Mmh, ouais.
Ben oui. Ben oui, forcément. Donc, mais c'est que ça, en fait, c'est des mensonges à tout bout de champ, là, comme par rapport à l'année dernière, l'épisode de violence, il a dit à ma fille, oui, ta mère, elle a été dire aux policiers comme quoi j'y avais mis un coup de poing, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Alors, ma fille, je vais lui montrer le dépôt de plainte parce qu'elle sait dire tout ça. Donc, je vais lui montrer ce que j'ai dit. Donc, comme quoi, il m'avait mis une grosse claque, oui, au niveau de la tempe et de l'oreille. Mais non, il n'a jamais été question de coup de poing ni quoi que ce soit. Il ment, mais à tout bout de champ. Il lui raconte des bêtises, mais sur des broutilles, quelquefois.
C'est compliqué d'expliquer à un enfant que son père est un menteur.
Ah là là, mais des fois, elle s'en rend compte, parce que des fois, il raconte des choses, même elle, c'est gros, même un enfant le...
Tellement c'est énorme.
Ah oui.
Est-ce que vous lui avez dit à lui que la petite a été inquiète? Est-ce qu'il sait que sa fille s'inquiète à ce point-là pour lui? Ça devrait quand même le toucher, ça.
Non. Ben non. Je lui dis pas.
Pourquoi?
Parce que je n'ai plus de lien avec lui, mis à part concernant l'école ou l'état de santé de ma fille si elle tombe malade. Mais sinon, c'est tout. Parce que là, si je lui dis ça, ça va se retourner contre moi. De toute façon, je serais une menteuse. Je lui aurais raconté encore n'importe quoi.
Oui.
Je vais la monter contre lui. Ce que je cherche, c'est d'avoir la garde. Voilà, c'est tout. En fait, son discours, c'est ça. Ça s'arrête là.
Ce qui est assez incompréhensible, parce que vous avez quand même été extrêmement tolérante et bienveillante depuis le début de l'histoire.
Mais... C'est ce que je dis.
C'est assez rare d'entendre quelqu'un qui parle comme vous le faites d'un divorce. Vous avez été très arrangeante pour tout.
Mais c'est ce que je dis. Si j'avais voulu, je suis dès le début.
Ben voilà, c'est ça qui est bizarre.
Tu consommais de l'alcool, tu consommais le cannabis. J'aurais pu partir avec ma gamine sous le bras quand même et que tu la voyais un week-end tous les 15 jours, voire dans un plein soleil. Je pense que j'ai toujours été correcte. Et quand il fallait l'arranger, quand il partait en déplacement, quelquefois à l'étranger, tout ça, c'était pas ma semaine. Je l'apprenais quand même. Quand il a eu ses soucis avec son ex, je passais des heures au téléphone avec lui.
Vous avez été plus qu'arrangeante, hein. Vous avez été soutenante même. C'est ça qui est fou pour en arriver là. Comme s'il cherchait vraiment, vraiment systématiquement à détruire ce qui se construit et à se punir.
Ah, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce que je dis. J'ai mes mains, j'ai tout fait en sorte. Je fais même, il y a donc en 2022, donc en 2020, son anniversaire, ce jour-là, ben, il nous ramène la petite. Et puis, ben, elle était là. Alors, j'ai dit à ma fille, je fais, ben, viens, j'ai un gâteau dans le congélateur. On va mettre deux bougies, puis comme ça, on fête l'anniversaire de papa, quoi. Il l'a même pas fêté en famille. C'est avec nous qu'il l'a fêté. Enfin, je pense que. Enfin, j'ai l'impression d'être bête, mais je comprends plus, parce que je pense que j'ai fait en sorte à ce que tout se passe bien. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, ben, je suis la reine des imbéciles, en fait, la reine des emmerdeuses, parce que c'est moi qui cherche toutes les histoires, en fin de compte, à entendre.
Avec sa mère, vous n'avez plus aucun lien non plus ?
Ah non, et puis je veux même plus en avoir.
Vous voulez plus,
ah alors
plus,
là. Non. Alors avec elle, ça a été assez conflictuel depuis longtemps, parce que. Quand notre fille est née, elle a voulu jouer le rôle de la maman, donc il a fallu que je mette un petit peu le holà à un moment donné, puisque dans la famille, personne ne le faisait. Elle marchait au chantage affectif avec tout le monde, mais avec moi, ça ne marchait pas. Et donc voilà, mais voilà, encore pour le bien de ma fille, c'est toujours resté courtois. Pour la fête des grands-mères, on faisait toujours un atelier manuel avec ma fille, comme ça, elle avait son cadeau, tout ça, enfin... voilà, j'ai toujours fait en sorte parce qu'il y ait quelque chose, vice versa, parce qu'à l'inverse, elle faisait la même chose pour la fête des mères. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, concernant l'histoire de ce qui s'est passé, les faits de violence, quand je l'ai appelé en disant, bah, écoutez, je vous préviens, vous, parce que j'ai peur qu'il réagisse mal, il aura besoin de soutien, moi, je ne serai pas là. Par contre, cette fois, chez mes vous, faites gaffe à lui, quoi, parce que surtout que c'était les vacances scolaires après, je savais qu'il avait sa semaine de vacances et qu'il n'aurait pas sa fille. Je me suis dit, ben là, il va replonger en plein dedans et j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi. Donc, je ne voulais pas qu'il soit seul. Je ne veux pas qu'il lui arrive n'importe quoi s'il perde ma fille, quand même.
Je comprends mieux, mais cette femme, votre ex-belle-mère, ce chantage affectif, est-ce qu'elle l'a pratiqué avec lui quand il était enfant ? Est-ce qu'il a grandi
enfant,
un peu dans cette...
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas tout ça ?
Enfant, je ne sais pas. Mais
en principe, quand on a ce caractère-là, on l'a. Ça vient pas d'un coup. Quand on a cette manière de fonctionner,
contre,
elle a probablement été comme ça depuis toujours.
Elle est séparée du papa. Et je sais que elle a monté les enfants contre leur père, parce que le père de ma fille, s'il revoit son père, c'est grâce à moi.
Oui, donc c'est pas sain tout ça. Il a grandi quand même dans un environnement. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il s'est senti humilié parce qu'il était obèse.
Oui, il
aussi.
Avait, il est pas gros, hein, il est pas mince non plus, mais je veux dire qu'il est pas norme. Mais petit, bon, il avait un peu plus de rondeur, et c'est vrai que les enfants entre eux, bah, c'est cruel, hein, voilà. Donc oui, est-ce que il y a pas un souci qui viendrait de là aussi ? Je ne sais pas du tout. Mais je sais que sa mère lui a raconté comme quoi son père était violent, tout ça. Lui n'a aucun souvenir de ça. Et puis quand moi j'en ai parlé avec son père, hein. Et son père, bah, a une toute autre version. Et il n'a pas, c'est la bonne patte, hein. J'ai du mal à croire qu'il ait été violent, mais bon, après, on ne connaît jamais trop les personnes non plus.
Non, mais on peut se dire que ce qu'il a enregistré plus ou moins consciemment, c'est qu'un divorce entre un père et une mère, ça se passe mal, et qu'il y a de la manipulation et du mensonge. Et que c'est comme si inconsciemment il était allé se recréer un univers comme celui-ci, créer quelque chose qui n'existait pas, qui allait bien.
Je ne suis pas sa mère.
Mais voilà, le problème c'est qu'il a collé sa propre histoire sur la vôtre, son histoire de ses parents sur votre couple à vous.
C'est malheureux.
Et qu'il est en train de vous faire vivre finalement une expérience qui n'est pas la sienne ni la vôtre.
Ouais, mais c'est ça. Mais comme ce que j'ai dit, parce que nous à ce moment-là, on habitait en appartement. Et pour les 1 an de ma fille, voilà, je voulais réunir les grands-parents, donc bah, mes parents qui sont toujours ensemble à l'heure d'aujourd'hui, sa mère avec son mari et son père avec sa femme. Oh, et alors là, mais qu'est-ce que j'avais pas fait ? Alors, et puis oui, et puis un autre week-end, les oncles et tantes, parrains, marraines, voilà, puisque on ne pouvait pas recevoir tout le monde d'un coup, quoi. Et alors là, quand on lui a annoncé ça, elle fait bah super, donc bah ma fille elle va pas comprendre. Je fais, comment ça, elle va pas comprendre? Bah oui, elle comptait venir le même week-end que nous. Je fais, non, mais si elle comptait venir, c'est que quelqu'un lui a dit, et c'est certainement pas nous. Donc elle avait pris les devants, voilà, d'inviter sa propre fille chez nous, enfin elle faisait ça à sa sauce. Elle fait oui, et puis bah, le père de donc du père, enfin l'autre papy, moi je trouve pas ça normal. Je sais bah, pourquoi. Bah c'est nous quand même les grands-parents, c'est mon mari qui a élevé donc mon fils, tout ça. Je dis mais ça c'est vos histoires. Je dis, ça n'a rien à voir. Je dis, là on parle de notre fille. Je dis, on parle pas de vos histoires à vous. Je dis, vous êtes capable quand même de faire bonne figure le temps d'un repas. Je vous demande pas de vous tomber dans les bras de l'un de l'autre. Je dis, mais simplement d'être courtois, de faire bonne figure pour l'amour de votre petite fille.
Visiblement l'harmonie c'est pas leur truc. Hein.
Ah mais c'est un truc de fou. Mais j'ai une famille, on est une famille nombreuse. Alors c'est pas tout rose, hein, c'est clair. Mais je pense qu'on est assez adulte pour faire quand même les bonnes choses.
La part des choses, oui.
Mais voilà, c'est ça. Faut, enfin, je suis non pour le bien de tout le monde. Ça me rend folle, quoi. Ça me rend folle parce que j'essaie de tout faire. Alors, je ne suis pas irréprochable, hein, c'est vrai. Ça, qui l'est, hein, de toute façon. Mais je pense avoir manœuvré quand même, malgré tout, pendant des années, pour que tout se passe bien.
Vous avez arrondi beaucoup d'angles.
Mais oui, et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, je me sens complètement perdue. J'ai ma fille, voilà, qui ce soir, voilà, normalement, 20h30, nous, elle est couchée parce que, bah, elle a besoin de sommeil. Qui, à 22h, j'étais encore dans sa chambre, on discutait toutes les deux parce que, bah, elle ne trouvait pas le sommeil, parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle me reparle de la dispute d'il y a plus d'un an, que ce week-end, elle était inquiète de voir papa comme ça. Oui. Ben ouais, du coup, je fais quoi? J'ai pas envie de repartir au commissariat. Pourquoi? Pour raconter? Je ne sais pas, puisque de toute façon, la mauvaise expérience que j'ai eue, là, ça me donne pas envie. L'avocate en parlait. Le problème, c'est que financièrement, j'ai du mal déjà à payer mon avocate par rapport à l'audience qu'on a eue. Donc,
oui, chaque rendez-vous, c'est un chèque à sortir.
Mais c'est ça, hein. Je suis en congé parental, moi, mon fils a même pas 6 mois, j'étais déjà 4 ans partiel, on a la maison sur le dos, la voiture, j'ai du mal déjà à la payer, je peux pas en rajouter. Alors je me dis, étant donné qu'on avait eu les assistantes sociales, est-ce que je dois reprendre contact avec elles? Donc le rapport des assistantes sociales, ça a été bon, la petite n'est pas en danger, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout se passe bien, mais madame, vous avez bien fait de mettre le holà, de mettre des barrières, chacun chez soi.
Oui.
Voilà.
Moi je pense que c'est bien que les choses soient dites. Donc si des assistantes sociales peuvent l'entendre, c'est une bonne chose aussi.
Mais ouais,
ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez mentionné tout à l'heure une histoire de porte qu'elle ne peut pas ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chez son père? Alors, pourquoi elle ne pourrait pas ouvrir la porte?
La porte d'entrée, en fait, est très dure. Même moi, je me souviens, les peu de fois où on est allé chez lui pour repartir, c'est vrai que...
Mais ça, vous pourriez lui en parler quand même, lui dire, tu te rends compte si un jour tu as... Enfin non, vous ne lui parlez plus, c'est vrai, zut.
Ben oui, mais la fois où j'en avais parlé, où on se parlait encore, oui, bah, de toute façon, pourquoi faire, quoi? Lui, il est là, ben oui, mais il est là tout pendant qu'il...
Il n'y a aucun moyen que la petite apprenne à l'ouvrir d'une manière ou d'une autre.
Ben, elle est dure, quoi. Cette porte est vraiment dure. Ah ouais, non, pour déverrouiller la porte, c'est compliqué. Et le problème, c'est que c'est en appartement, donc c'est que 2 étages, mais ils sont au 2e. Et donc, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que j'essaie de trouver, moi, des solutions. Alors, je lui en donne. C'est pour ça, comme elle a un vieux téléphone, elle peut au moins appeler les services d'urgence. Elle connaît les adresses. Je lui ai appris les adresses par cœur.
Oui, ça, c'est une bonne chose, déjà.
Comme ça, elle le sait. Et je lui dis, de toute façon, nous, on n'est pas dans l'annuaire. Mais tu sais, papy, mamie, tu connais leur nom. Tu sais où est-ce qu'ils habitent, dans quelle ville. Ils vont retrouver. Et puis, de toute façon, comme ça, moi, je serai au courant, quoi qu'il arrive. Donc voilà, dans son agenda, c'est pareil. J'ai noté tous les ans, je note tous les numéros de téléphone des proches là à prévenir. Comme ça, je me dis, si un jour, justement, avec son père, il y a un souci, qu'elle doit appeler les pompiers, elle a juste à donner son agenda. Et puis, les numéros sont dedans.
Et vous êtes, j'imagine, qu'à contact d'urgence aussi, vous?
Oui, je suis en contact d'urgence. Bon. Mais c'est vrai que j'essaie de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse avoir les matériaux vraiment à portée de main. Peut-être une manière de la rassurer ou de me rassurer, moi, probablement.
Parce que si je comprends bien dans cette histoire, c'est pas vraiment elle qui est en danger, c'est lui. Mais forcément, cette situation peut la mettre en danger, elle, pas volontairement, mais par de fait, quoi, de par la situation.
C'est ça.
C'est pas une enfant qui risque d'être maltraitée, mais qui va se retrouver dans une situation peut-être ingérable pour une petite fille de son âge, quoi.
Comme là, comme samedi, du coup, il tubait, il tapait d'un mur à l'autre, il perdait l'équilibre, tout ça. Mmh. En tombant, il a écrasé le chat. Je me dis,
il pourrait tomber sur elle.
Ma vie, il aurait pu trébucher sur toi, te faire tomber. Et un meuble, une table basse, tout ça. Enfin, c'est vite arrivé, quoi. Et puis, qui me dit qu'il ne prend pas le volant là, comme ça avec elle dans la voiture?
Il faut lui dire à votre fille qu'elle refuse de monter en voiture avec lui, absolument.
Oui, mais elle le sait, mais elle montera quand même, puisque de toute façon, elle n'aura pas le choix, et il aura le dernier mot et elle obéira. Ma fille, en fait, elle voudra pas le vexer, elle voudra pas nous vexer. Et même si elle doit se mettre en danger, elle fera plaisir à son père.
Oui, c'est souvent le cas, malheureusement, des enfants qui sont entre deux comme ça. Je me demandais si vous ne pouviez pas contacter l'association qui s'appelle Alcool Info Service pour leur demander des conseils.
Alors, j'y ai pensé, j'ai pris le numéro justement tout à l'heure pour.
Parce qu'ils ont l'habitude de ces situations-là. Ils ont peut-être de bons conseils, des choses à vous dire, à vous, à la petite.
Ouais. Alors, c'est pareil, ma fille, je lui ai dit d'en parler au système scolaire.
Elle a probablement une assistante sociale ou une infirmière à l'école, psychologue, oui, c'est ça.
Il y a un psychologue et puis la directrice qui était son instit l'année dernière est au courant de l'histoire puisque j'avais prévenu à ce moment-là comme quoi il ne devait pas venir la chercher à l'école.
D'accord.
Quoi qu'il arrivait. Donc elle est au courant, on avait longuement discuté toutes les deux, donc c'est pour ça que je lui ai dit, tu parlais bien avec elle. Elle fait bah oui, je fais bah tu peux lui en parler. Je fais si tu veux parler à un adulte autre que notre famille, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que
c'est bien ça qu'elle sache ça, c'est très très bien, ouais.
Oui. Mais de toute façon, je lui ai toujours dit, de toute façon, si tu as le moindre souci, la moindre inquiétude, tu en parles à un adulte, peu importe qui c'est. Je sais même si c'est le médecin, parce que moi du coup elle a rencontré mon médecin sans moi. De manière justement à pouvoir discuter entre eux de tout ça. Alors c'est vrai que ça me coûte parce que j'aimerais pouvoir entendre, mais je me dis que ça peut être une solution pour qu'elle se libère parce qu'elle garde énormément pour elle.
Et oui, puisqu'elle ne veut pas blesser l'un ou l'autre, donc forcément elle est coincée des deux côtés, la petite.
C'est
pas
ça.
Simple pour elle. Concrètement, qu'est-ce que vous espéreriez maintenant? Comment est-ce que vous voyez l'avenir?
Je sais pas. Sincèrement, j'arrive pas à voir. Je suis tellement inquiète et en colère contre lui.
Ils se prennent pas en charge, quoi, surtout. C'est ça qui est terrible.
Mais oui, parce qu'ils se détruisent, c'est un fait. Mais par contre, qu'ils détruisent notre fille, je suis pas d'accord. Elle n'a rien demandé. C'est qu'une enfant de 8 ans. Enfin, normalement, à cet âge-là, enfin, c'est la souciance, c'est les rêves, voilà, c'est les licornes, les paillettes, tout ça. Non, ma fille, c'est voir son père tomber, voir ses parents s'agresser. Tout ce qu'une petite fille de 8 ans ne devrait pas voir.
Bien sûr, mais ce qui va se passer aussi pour lui, c'est qu'elle va grandir très vite, cette petite fille. Et il ne pourra pas continuer à jouer comme ça sur le côté « il ne s'est rien passé, j'oublie, ça ne marchera plus ». Et à un moment donné, ça va lui exploser à la figure aussi, ce comportement.
Oui, mais pas tout de suite. Parce que je suis consciente que ma fille...
Elle va dire stop, hein, oui.
Oui, mais pas tout de suite, parce que je me prépare à l'idée que ma fille, dans quelques années, me dise « je veux vivre chez papa ».
On n'en est pas là, attendez, parce que ça dépend ce qu'elle va vivre avec lui d'ici là.
Oui, mais le problème, c'est que là-bas, elle est totalement libre. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Elle a tout, il l'achète. Hein. Elle voulait la Switch. Tu auras la Switch, tu veux ça, tu auras ça. Nous, c'est vrai, elle n'a pas tout ce qu'elle veut quand elle le désire.
Mais attendez, il y a un moment donné, il y aura ce qu'on appelle la cuite de trop, et la console à côté de ça, ça fera peanuts, ça sera pas ça l'important.
Voilà. Mais je pense qu'elle ira vivre d'abord chez son père, et qu'un jour, oui, elle fera machine arrière, en fait.
Ah oui.
Ben oui, parce que nous, c'est vrai qu'on a des principes, on a des règles. Nous, c'est vrai que y a déjà la politesse. Nous, il y a à table, il y a le s'il te plaît, merci, tout ça. Chose qu'il n'y a pas là-bas, parce que nous, déjà, c'est des repas en famille.
Il y a un moment où elle se rendra compte que c'est beaucoup plus important qu'elle ne le croit, tout ça.
Ben là, maintenant, c'est vrai qu'elle a un petit frère, donc elle n'est plus toute seule, donc c'est vrai qu'elle est contente de le revoir aussi. Alors, bien que le fait d'aller chez son père, ça lui fait une semaine de répit quand même, parce que c'est vrai qu'il est bébé, donc il y a quand même des pleurs, tout ça, c'est pas toujours évident. Elle a toujours été fille unique, hein. Mais elle est quand même contente de le revoir. Et puis, c'est vrai qu'avec nous, ben, on fait toujours des activités, où on sort, tout ça. Son père, ben, non, c'est ben, le téléphone ou la console, la télé. Il y a un parc à côté, ils habitent même à côté de la piscine, elle qui adore ça. Mais non, ça par contre, il ne faut rien, mais par contre, elle est libre. Voilà.
Mais je vous dis, un jour, il y aura un geste de trop, une cuite de trop, et la liberté, ça se paye, ça sera beaucoup trop cher comme prix à payer.
Ouais,
mais pour l'instant, on n'en est pas là, c'est vrai. Mais non. Je pense que vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus que la prévenir beaucoup, lui expliquer tout ce que vous lui avez déjà expliqué. En parler effectivement à une assistante sociale en plus. Insister sur le fait qu'elle en parle à l'école, même quitte vous à mettre un petit mot à la directrice. Voyez.
De toute façon, oui, je pense prévenir la directrice de manière à ce que
ça se sache.
Ne va pas vers elle, qu'elle aille.
Elle lui propose,
vers ma
fille, oui, tout à fait. Qu'elle lui ouvre la porte. Oui.
Mais voilà, mais je veux que le système scolaire la soit au courant parce que je me dis que si. Parce que moi, on m'a bien dit, hein, quand même, moi, l'avocate, on m'avait dit, mais vous savez, madame, si vous remettez votre fille et qu'il se passe quelque chose, vous êtes en tort,
oui,
puisque sinon, assistance en personne en danger.
Vous aurez, quoi qu'il arrive, c'est de votre faute, quoi.
Mais voilà.
Non, c'est pour ça, il faut vraiment verrouiller le maximum. Hein.
Mais voilà, donc c'est pour ça que je me dis, bah, le système scolaire, quand même, a un certain poids vis-à-vis des enfants. Et que, étant donné qu'ils sont déjà au courant de cette histoire-là, si ma fille énumère quand même l'épisode, notamment de samedi, et que ce n'est pas la première fois, parce que je lui ai bien dit aussi, si un jour tu appelles les secours, comme ça, donc c'est pour sauver papa, je lui ai dit bien que ce n'est pas la première fois.
Oui, bien sûr, c'est important.
J'essaie d'insister de manière à ce qu'ils soient vraiment pris en charge, mais quelque part de force, parce que il faut qu'il ait une obligation de se soigner.
Alors, c'est une bonne chose.
Que c'est nécessaire, quoi.
Maëva, on va devoir se quitter parce que les informations arrivent.
Ah, pardon.
Je crois que c'est une bonne idée d'appeler Alcool Info Service aussi pour leur demander des conseils.
D'accord.
Peut-être plus précis sur des situations comme celle-ci, parce qu'ils connaissent, ils ont l'habitude.
Ok.
Et puis,
je vous remercie.
Continuez à rester très vigilante sur la petite et vraiment. Je vous trouve formidable parce que vous avez été d'une patience, d'une tolérance, vous avez fait preuve de tellement d'humanité dans cette histoire que vous ne méritez pas que ça se retourne contre vous comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va se stabiliser, qu'il va se soigner, qu'il va comprendre ça, qu'il faut qu'il se prenne en charge pour le bien de son et de sa fille, quoi. Vraiment.
Hein, on va merci aller. Beaucoup Sabine.
Je vous embrasse Maëva.
Merci, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur Europe 1 et nous entamons cette deuxième partie de la Libre Antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr à tout moment composer le 39-21 si vous avez envie de prendre la parole. Ce soir, Cindy et Nicolas sont là à votre service. Ils vous attendent au standard d'Europe 1, 39-21. Pour réagir par SMS, c'est toujours le 7-39-21, suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Alors j'ai terminé un peu vite avec Maëva, c'est vrai qu'on s'est parlé longtemps, mais il y a deux choses que j'aimerais lui dire que j'ai oubliées sur le moment. C'est qu'elle pourrait aussi prendre, Maëva si vous m'écoutez, faire une sorte de cahier de route, c'est-à-dire vous notez à chaque fois les dates et ce qui s'est passé. Ça pourrait être important pour vous et pour la petite plus tard. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, contactez le juge aux affaires familiales qui pourrait aussi vous accompagner dans cette histoire bien compliquée. Bon courage à vous Maëva. Et c'est Hélène que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Sabine.
Ravie de faire votre connaissance.
Merci, je suis toute émue de vous parler. Je vous écoute tellement souvent, et là je me dis que c'est mon tour, c'est un peu fou.
C'est moi qui vous écoute, pour le coup.
Ouais, alors je vous appelle parce que je suis très, très, très préoccupée pour mon petit garçon, qui a 3 ans.
Oui.
Dans le contexte de séparation de moi et de son papa, qui est très récent, hein, qui date d'il y a deux mois et demi.
Pour quelle raison vous êtes séparés?
On ne se supportait plus.
Donc c'est vous qui avez choisi cette d'accord.
Non, c'est pas moi. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça. Et on a suivi une... On s'est fait aider pendant un an et demi. Moi, j'avais vraiment espoir que se faire aider, ça aurait permis de continuer. Et en fait, ça n'a pas permis.
Vous avez été combien de temps ensemble?
15 ans.
Ah oui. Et la thérapie n'a pas servi alors du tout?
Ben, elle nous a, je dirais, en prenant du recul, elle nous a permis à nous séparer assez proprement. Je pense que si on n'avait pas eu de thérapie, on se serait peut-être plus clashé avec une séparation très compliquée.
Là, donc c'est déjà ça, c'est déjà un petit quelque chose de positif quand même.
Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà. Bon, moi, j'avais vraiment espoir que ça puisse continuer parce qu'on était parents. Oui. C'était ça vraiment qui était très très important pour moi. Je n'imaginais pas qu'en étant parents, on puisse se séparer. Mais voilà, c'est tout. On va dire que mon compagnon a un peu quitté le navire pendant l'été et là, j'ai compris que. Il cherchait plus à ce que ça dure, quoi. Donc, en fait, quand on s'est parlé, ben, il dit c'est tout, faut arrêter. Donc, on a fait le choix de prendre chacun une habitation. Alors, par méconnaissance, hein, ça, je m'en veux aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. On est parti sur une garde alternée très courte pour notre enfant. C'est-à-dire qu'on a fait du...
Deux, trois. Et ça, vous dites que vous le regrettez aujourd'hui?
Bah oui, parce que, voilà, justement, on y vient, en fait, c'est ça que ça ne répond pas du tout aux besoins de notre enfant. Il est en souffrance.
Pourquoi vous avez fait ce choix à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ça?
En fait, mon compagnon, lui... Vous voyez, d'une semaine, une semaine. Moi, ça me paraissait impensable en tant que maman.
Trop long. Oui.
Trop long, pour moi comme pour mon enfant, hein, ça me paraissait impensable. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu en me disant, bah, si on peut pas les mois être séparés longtemps, donc on peut faire des petites séparations. Mais voilà, c'était malheureusement dans le moment, sans avoir la connaissance, je vous dis tellement je m'en veux, hein, de m'être renseignée sur les besoins d'un enfant de cet âge-là.
En même temps, je comprends, ça se défend comme raisonnement pour une maman de se dire, il est tout petit ce petit bout, il a 3 ans. Et oui, donc se dire qu'il est séparé de sa maman une semaine complète, on peut comprendre que ça peut sembler long. Ça ne me paraît pas complètement aberrant d'avoir tenté ce système.
Oui, merci. Voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que très vite, on a constaté que ça c'était compliqué pour notre enfant parce qu'il a très vite eu des troubles du sommeil. C'est un enfant qui dormait très facilement, qui s'endormait très facilement, qui avait pas de stress dans sa vie. Bien dans ses baskets. Et puis, il a commencé à avoir des réveils nocturnes, des endormissements très très longs, donc des nuits plus courtes. Donc, bon, je me dis, pour sa santé, c'est pas terrible.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute du timing et pas simplement la faute de la séparation, du divorce, enfin, la séparation? Est-ce que ce stress-là ne vient pas juste du fait que son papa et sa maman ne sont plus ensemble et ça n'a rien à voir avec le rythme de garde? Je ne sais pas, hein, je me pose la question.
Bah, en fait, c'est mon avis, hein, mais puis avec ce que je me suis documentée sur les références de psychologues, de psychiatres, etc., qui expliquent bien qu'un petit à cet âge-là, il a besoin de passer plus de temps avec sa figure d'attachement principale. Donc, souvent, c'est la maman, c'est sûr, c'est moi sa maman. sans être en comparaison avec le papa, mais une maman, depuis la naissance, s'occupe plus de son enfant. Il est en souffrance. Après, mon fils me le dit. Comment dire ? Déjà là, il n'y a pas longtemps, on parlait de l'école, moi et mon enfant. Et en ce moment, parce qu'il a eu une maîtresse remplaçante sur 6 semaines, donc là, il vient de retrouver sa maîtresse, donc c'est aussi perturbant. Il parle des deux maîtresses, et je comprends que ça le... Je suis un peu embêtée avec ça. Et puis j'ai commencé à lui parler en disant, tu sais, moi, quand j'étais petite, il y a une amie aussi, j'ai deux maîtresses, il y a une maîtresse qui attendait un bébé. Puis à un moment, il m'a dit, toi, quand tu étais petite, toi aussi, tu n'étais pas d'accord. Vous voyez, quand j'entends ça. Enfin, comprenez ce que ça veut dire.
Avec ses mots à lui, oui, il exprime ce qu'il ressent, bien sûr.
Bah ouais, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Après.
Vous pouvez lui dire qu'il a le droit de ne pas être d'accord. Et qu'il a le droit de le dire aussi.
Ouais.
C'est important qu'il soit entendu dans ce qu'il a comme émotion et comme sentiment. Même s'il est petit, même si c'est avec ses mots à lui, c'est important qu'il se sente entendu. Et qu'il sache qu'il a le droit, il n'a pas à se culpabiliser non plus de ressentir ça, c'est normal, il a le droit d'être en colère aussi s'il a envie. Il a le droit de vous en vouloir, il a le droit de le dire. Il vaut mieux que ça ne reste pas à l'intérieur, ce serait pour lui.
Oui. Bah, j'essaye de parler beaucoup avec lui. On lit beaucoup des livres sur les émotions pour justement... aujourd'hui, il s'est exprimé, il a bien compris la peur et être rassuré. Il a bien compris ce que c'est. C'est des mots qui m'expriment beaucoup. Vous voyez, il me dit « j'ai peur quand tu quittes la chambre le soir ». Ça fait que du coup, en fait, c'est impossible de partir. C'est très, très compliqué.
Il y a un petit exercice qui est assez sympathique à faire avec les enfants comme ça. Vous lui demandez de mettre une couleur par émotion. Il va vous dire peut-être la colère, c'est le rouge, la peur, c'est le noir, le calme, c'est le jaune, je ne sais pas. C'est lui qui va vous faire votre son arc-en-ciel des couleurs. Et vous pouvez l'aider à exprimer tout ça avec des dessins, des crayons aussi de couleurs. Ou alors, par exemple, dans son esprit, si le calme et le bien-être, c'est le vert, lui acheter un petit foulard ou un petit doudou vert qu'il pourra garder quand ça ne va pas. Essayez de le faire jouer avec son imaginaire et les émotions, vous voyez.
D'accord.
Pour qu'il puisse exprimer les choses. Ou lui acheter peut-être, je ne sais pas si c'est quatre doudous différents, de couleurs différentes, avec le doudou de la colère, le doudou de la tristesse, le doudou de la peur. Et si ce n'est pas un doudou, c'est autre chose qui peut symboliquement représenter ses émotions sous forme de couleurs ou d'objets. D'ailleurs, si vous préférez un objet, ça peut être aussi ça. Il peut y avoir un petit ours, un petit éléphant, un petit, j'en sais rien, vous voyez, des mini peluches comme ça, de manière à ce qu'il puisse extérioriser ce qu'il ressent. Qu'il puisse mettre des mots et des couleurs sur ses émotions de manière très, très simple et ludique pour lui.
Mmh. Oui, d'accord.
C'est un système de communication qui peut être sympa avec les petits, comme ça. Et ça lui permet de comprendre qu'il a le droit d'avoir des émotions, de les ressentir et de les exprimer, surtout. Mais si vous avez pris conscience que ce rythme ne vous convient pas, est-ce que le papa est d'accord avec vous là-dessus? Est-ce que lui aussi se dit que ce n'était pas une bonne idée, il ne fallait pas?
Et là, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé et que je suis vraiment pas bien avec ça. Parce que, en fait, on a fait le choix en décembre de faire appel à un psychologue pour enfants. Pour avoir un avis du psychologue sur notre enfant par rapport à la situation.
Très bien.
Si vous voulez, je me dis, mais je ne vois pas ce que cette psychologue va m'apprendre. Parce que mon enfant, je le comprends et je vois ce qu'il me dit et je comprends ce qu'il me dit. Et...
Oui, mais elle a le recul de ce genre de situation quand même.
Oui. Alors bon, voilà. Du coup, mon ex-compagnon ne souhaitait rien changer tant qu'on n'avait pas les conclusions de cette psychologue.
Oui.
Mais voilà, moi, c'est très, très dur pour moi en tant que maman de voir mon cœur, il est dévasté de voir mon fils, il ne va pas bien, que je ne peux pas répondre à ses besoins parce qu'en fait, il me réclame. Je sais que quand son papa va le chercher chez notre nounou, souvent il me demande maman. Quand il me voit, quand je lui dis ce soir tu seras pas à la maison de maman, tu seras à la maison de papa, et il exprime clairement ses noms. Il exprime aussi que, par exemple, dans les endroits symboliques, par exemple chez mes parents, quand on était avant tous ensemble, quand on était là à Noël, il dit qu'il voudrait que papa soit là.
Mais c'est normal, en même temps, Hélène, vous l'avez dit vous-même, c'est tout récent. Il faut le temps que chacun trouve ses marques dans cette nouvelle histoire-là. C'est tout frais, même pour lui. Ça me paraît tout à fait logique et humain qu'il ait besoin d'un peu de temps aussi pour s'adapter, trouver un mode de fonctionnement avec l'un, avec l'autre. Et vous, c'est pareil, il va falloir du temps. Tout ça est brutal et tout ça est frais encore. Donc effectivement, moi, je pense que les conseils d'une psy seront bienvenus dans une situation comme celle-ci. Et surtout, dites-vous qu'il y a des milliers d'enfants qui sont des enfants de divorcés et ils trouvent leur marque, ils trouvent un équilibre. Tant qu'il y a de l'amour et de la bonne volonté de chaque côté, il y a une solution à tout.
Je suis d'accord. Mais toujours est-il que ce rythme court-là, je pense sincèrement que notre enfant, il est complètement ballotté.
Ben vous n'allez pas le garder à ce moment-là, ce rythme-là, vous changerez. Vous avez trouvé... Quand est-ce que vous la voyez, cette psy ?
Ben là, on a commencé. Elle avait proposé. Elle a déjà fait une séance avec moi et mon fils. Après, là.
C'est en cours, donc c'est bien.
Oui, c'est commencé, voilà. Moi, j'espère. En fait, c'est parce que. Je pense qu'avant les vacances de février, j'espère qu'elle va me faire son retour. Mais moi, j'aimerais tellement me rassurer en me disant, après les vacances de février, on change ce rythme, on arrête de voir le temps en souffrance, même si ça va prendre du temps pour le resécuriser.
Est-ce que vous êtes loin géographiquement l'un de l'autre ?
Non.
Donc, c'est pas très compliqué, les allers-retours. Parce qu'il y a quelque chose que, je sais pas, il faudrait vérifier avec la psy quand même. Que vous pourriez peut-être mettre en place, si c'est trop difficile au début, c'est de faire une semaine, mais si vraiment vous lui manquez trop, que vous puissiez passer lui faire un bisou un soir de la semaine, simplement. Ou prendre un chocolat avec lui à la sortie de la maternelle.
Mais
faire une petite pause, parce que comme il est tout peu, je ne sais pas, vraiment, demandez
quand même. Je ne sais quand même pas recommander une semaine pour un petit tétage-là. Je ne sais pas du tout recommander.
Qu'est-ce que vous aimeriez alors, vous ? Moins que ça, quoi ?
Moi, je voudrais qu'il revienne dans sa maison principale avec moi pour être stabilisé le plus possible et qu'il garde un lien avec son papa, bien entendu.
C'est-à-dire que vous aimeriez que son père ne l'ait que les week-ends et les vacances ?
Je ne dirais pas comme ça. C'est pas assez...
C'est un peu ça que vous me dites, là, quand même.
Ouais.
Oui.
Ouais. En fait, si vous voulez, moi, je veux bien, par exemple, dire, la semaine, j'ai un peu plus de temps le matin et le soir. Donc, le matin, les jours d'école, je m'en occupe. Après, si le papa, il veut, je l'ai déjà dit, mais il n'est pas prêt. Je lui ai dit, si tu veux passer, si tu veux, on s'organise un soir. Je ne suis même pas à la maison, mais tu es avec lui, mais il faut qu'il dorme le plus possible au même endroit. Et puis, après, je suis prête aussi à dire, si mon ex a plus de temps les week-ends que la semaine, je peux, mon fils est avec lui le week-end.
Alors attention à une chose, il faut quand même que tout soit bien stipulé par écrit. Après, les arrangements entre amis, c'est très bien quand ça fonctionne, mais le jour où il y a un problème, il faut quand même que la base soit bien définie sur le plan juridique. Mmh. Soyez très prudente là-dessus. Mmh. Mais est-ce que vous êtes prête à demander une garde, c'est une garde quasiment complète ? Est-ce que vous pensez aller jusque-là ?
Je suis ennuyée avec ce terme complet parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu avec le papa qui croit que je veux l'enfant plus que lui.
C'est sur le fond, c'est quand même ça.
Oui, mais c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant, vous voyez. C'est
Et en parler avec lui directement, ça serait trop compliqué ?
En fait, c'est ça qui me charge. En fait, on a quand même encore des difficultés à communiquer. Et je sais comment dire. Autant moi, j'ai été chercher des infos, j'ai fait des lectures, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de me renseigner, c'est quoi les meilleures solutions. Même si on m'a toujours dit, il n'y a pas une solution.
Il
n'y
a pas, non, évidemment. Chaque histoire est
chaque
différente.
Chaque famille, ouais. Mais bon, voilà, on peut s'inspirer des choses, voilà, en l'adaptant à notre sauce. Et j'ai l'impression que ces sujets-là, ça n'interpelle pas.
Il doit peut-être l'aborder simplement différemment. Il n'a pas peut-être la même sensibilité que vous.
Et différemment, ça serait comment?
Peut-être qu'il ne montre pas tous ces questionnements. Peut-être qu'il se pose les mêmes questions que vous aussi, qu'il a des inquiétudes, mais qu'il ne les exprime pas. Je ne sais pas. Quand vous avez parlé avec cette elle est quoi? Elle est psychiatre, psychanalyste, psychologue?
Psychologue, oui.
Est-ce que vous lui avez dit que vous souhaiteriez une garde différente et surtout une garde presque à temps plein pour vous?
On en a parlé, oui.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle n'a rien dit.
Elle n'a rien dit, bon.
C'est des séances très, très courtes, c'est très particulier. Hein. Ça dure 45 minutes. On a à peu près un quart d'heure où on fait le point sur depuis la dernière séance avec l'enfant. Après, mon fils a passé un quart d'heure avec elle pour jouer et puis passer sortir des choses. Mmh. Et puis après, il y avait un quart d'heure de débrief. Mais c'est très, très court pour avoir le temps de se parler vraiment des choses.
Et avec son papa, quand vous allez le chercher l'un et l'autre, est-ce que vous arrivez à vous parler en ce moment?
En fait, on se croise quasiment jamais parce que les changements se font avec la nuit, le soir.
Est-ce que vous n'aimeriez pas créer un temps de parole?
Ah mais moi j'en rêve.
Et vous pensez, pensez qu'il va refuser?
Bah, il a déjà dit qu'il n'était pas prêt, qu'il ne souhaitait pas, que ça lui convenait pas.
Il n'en est pas au même stade que vous. Je crois qu'il n'a pas la solution non plus. C'est peut-être ça aussi. Parce que s'il veut le bien de son fils et qu'il est conscient que 3 jours, ça ne marche pas, ça ne va pas fonctionner, il n'y a pas 10 000 solutions non plus.
Non.
À part effectivement le gérer en bonne intelligence, c'est-à-dire que vous l'ayez peut-être vous plus et que vous soyez souple sur le fait qu'il vienne quand il veut, de manière raisonnable évidemment. Mais le prendre, le partager de façon à ce qui ça pour le bien du petit principalement, vous voyez, et pas pour une bagarre de grand.
Bah oui, mais complètement. Mais ça, c'est des choses que j'ai déjà parlé, mais là, il n'est pas prêt.
Il n'a pas encore vu ce psychologue, lui?
Non.
Ça va peut-être lui faire du bien aussi, j'espère.
Oui.
De mettre des mots sur la situation, de se rendre compte que. Il faudrait qu'il s'ouvre au moins au dialogue avec vous, quoi. Vous avez tous les trois intérêt à ce que ça se passe le mieux possible.
Oui. Je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que tout repose sur cette psychologue. Et j'ai tellement d'espoir sur ce qu'elle va dire, mais j'ai tellement aussi peur qu'elle m'aide pas. Enfin, m'aide. Elle n'est pas censée m'aider moi, mais qu'elle ne fasse pas prendre conscience de la souffrance de notre enfant. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui le vois souffrir, vous voyez. C'est ça qui est très dur pour une maman.
Mais c'est là que je vous dis attention quand même à l'interprétation, parce que vous ne savez pas exactement ce qui se passe dans sa tête à lui, puisqu'il n'y a pas eu de dialogue, de conversation là-dessus. Peut-être que lui-même, il est en train de se poser 1000 questions, et qu'il est juste perdu ou que ça lui fait peur, la situation.
Et la psychologue, elle va nous aider là-dessus?
Normalement, c'est son rôle. Si elle arrive à le faire parler, s'il s'exprime, elle est là aussi pour voir avec lui comment gérer les choses au mieux. Et pour l'aider à lui à exprimer aussi ses émotions, parce qu'il n'y a pas que le petit qui a besoin de d'exprimer ce qui se passe. Le grand aussi, je pense qu'il doit éviter de garder tout ça à l'intérieur. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, je vous parlais tout à l'heure de ce jeu des foulards, ça peut être des mouchoirs en couleur, hein, qu'il joue avec son papa, ça aussi. Quel mouchoir on sort, quelle couleur on sort, de quoi on parle? Avec quelle couleur on joue aujourd'hui? Et l'air de rien, ça peut aussi ouvrir le dialogue entre le père et le fils.
Oui.
Il faut que des mots soient dits, soient posés sur tout ça. Et pour l'instant, il y en a, à part vous, il n'y a pas grand monde qui parle. Forcément, le petit, il fait ce qu'il peut à 3 ans. Et son papa, il garde tout pour lui, tout à l'intérieur. Et ce n'est pas une solution pour le moment.
Ouais, bon, je sais pas jusqu'à quel niveau il parle avec son enfant, mais avec notre enfant, j'ai l'impression d'être un peu toute seule, vous voyez, de me dire, mais j'essaie d'actionner tous les leviers que je peux. Vous voyez, il y a la maîtresse qui m'a parlé la semaine dernière, justement, pour me dire que depuis la rentrée, elle avait des soucis avec notre fils, qui était lié au contexte de la séparation. Mmh. Donc, je lui ai mis par écrit à mon ex ce que la maîtresse avait dit. Et en fait, il n'y a pas de réaction, alors que c'est quand même assez... Enfin, moi, je trouve que c'est inquiétant.
C'est là que je vous dis qu'on ne peut qu'interpréter son silence. On ne sait pas si c'est de la mauvaise volonté, s'il est perdu ou pour quelle raison il ne vous répond pas. Je ne peux pas vous le dire, ça, vous voyez. Mmh. Il y a Maya qui vous envoie un message en disant « Oui, il faut que Hélène instaure une garde un week-end sur deux et un mercredi sur deux. » Ma fille a 6 ans, ce n'est déjà pas évident. Alors à 3 ans, vous imaginez bien, ce petit garçon est trop petit pour voir aussi peu sa maman.
Mmh.
Elle, elle va dans votre sens aussi.
Je pense aussi, tout à fait. Ouais.
Je pense qu'il faut surtout que chacun arrive à exprimer ce qu'il ressent profondément dans cette histoire. Parce que pour l'instant, c'est un peu la panique. Personne n'a trouvé sa place, sa bonne place. Mais une fois de plus, ouais, c'est tout frais, donc c'est un peu normal. On ne trouve pas instantanément un nouveau mode de fonctionnement dans une famille, dans un couple avec un enfant, comme ça, quand ça s'arrête. On tâtonne et tout le monde tâtonne. Il n'y a pas de mode d'emploi miracle, il n'y a pas de solution miracle.
Et c'est ça qui est tellement dur pour... En tout cas pour moi, c'est de me dire mon enfant, il allait bien avant, il était obligé bien dans ses baskets, il se construisait bien, il était explorateur, il n'avait pas de peur...
Ça va revenir, c'est un virage là que vous prenez tous, mais ça va se stabiliser après, ça va revenir. Du moment qu'il y a de l'amour, pour lui des deux côtés, rassurez-vous, ça va aller pour lui.
On n'est pas en train de le traumatiser.
Vous êtes juste dans un virage en ce moment, prenez le virage le plus doucement possible, et si vous faites bien les choses tous les deux, ça va se stabiliser derrière. Une fois de plus, il y a des millions d'enfants qui sont des enfants divorcés et qui vont bien, Dieu merci. Ils ne sont pas tous traumatisés à vie. Hein. Ne vous culpabilisez pas trop quand même, Hélène, j'ai l'impression que vous vous en mettez beaucoup sur les épaules.
Oui, c'est sûr, oui.
Oui, mais ça aussi, il faudrait peut-être travailler sur vous là-dessus.
Oui. J'ai mon travail personnel aussi, qui est en route.
Bon, mais c'est important parce que voilà, c'est la faute à personne, un divorce. C'est comme ça arrive. Et votre petit bout de chou, il va s'en sortir très très bien. C'est juste que là, pour l'instant, effectivement, vous avez pris un virage un peu rapide, tous les trois, et que personne n'est à la bonne place, quoi. Eh bien, c'est pas grave, vous allez y travailler et vous allez instaurer une place pour chacun et ça va bien se passer. Et si cette psy ne vous convient pas, ben vous irez en voir une autre. C'est pas non plus la fin du monde. Si je sens que vous êtes un peu réticente, vous n'avez pas l'air d'avoir complètement confiance en elle, ce que je peux entendre, mais dans ces cas-là, ce n'est pas la fin du monde non plus. Dans ces cas-là, vous prenez rendez-vous avec une autre et vous demandez à faire un bilan différent avec quelqu'un d'autre.
Oui. Ouais.
Je pense que vous avez réagi vite quand même, assez vite pour comprendre qu'effectivement la situation n'était pas correcte, n'était pas équilibrée. Et donc voilà, à partir du moment où vous avez mis en action des choses, ça va se poser. Là, comme vous dites, vous avez eu ce premier rendez-vous, les vacances arrivent bientôt, le 2 février.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'alternance?
Du basique, une semaine. Mais on l'a fait déjà à Noël, et quand j'ai retrouvé mon fils après, c'était la première fois là qu'on était séparés 7 jours.
Oui.
Et quand je l'ai retrouvé à la rentrée, là, le lundi, il était quand même très, encore plus demandeur. Ouais, on était chez moi dans la même pièce, et il me demandait « Maman, t'es où ?» alors que j'étais à 3 mètres. Enfin,
c'est normal, en même temps, c'est la première fois, vous le dites vous-même. Vous allez chacun apprendre un nouveau mode de fonctionnement dans cette relation.
Moi, je le trouve tellement différent, tellement... Je mets peut-être des mots forts, mais je le trouve traumatisé, stressé.
Attention de ne pas projeter sur lui vos propres émotions aussi. traumatisé, c'est peut-être un mot un petit peu fort. Qu'il soit stressé, qu'il soit perturbé par la séparation de son papa et de sa maman, oui, bien sûr, et c'est normal. Mais ça n'est pas forcément un traumatisme. Et puis surtout, je pense qu'il ressent votre inquiétude aussi. Vous savez à quel point on est fusionnel avec eux. Et ce sont des éponges, nos enfants. Et donc, toutes les peurs qu'on ressent en vous écoutant, toute cette fragilité, il doit l'absorber aussi, ce petit bonhomme. Et c'est normal. Il faut du temps, une fois de plus, pour que chacun puisse exprimer ce qui ne va pas, proposer des choses, trouver les bonnes places et ensuite se reconstruire différemment. Et si vous allez bien, il ira bien aussi.
Je vous parle comme ça, hein, j'ai les larmes aux yeux, quand je suis avec lui, ça va. Hein. Autant, c'est vrai que les premières semaines, il y avait un nouveau rythme à trouver, être maman toute seule, c'est pas simple. C'est pas comme ça que je me projetais, donc je m'adapte. Mais là, je trouve que j'ai... Ça va quoi, j'ai un rythme qui va bien.
Vous assurez, oui, comme on dit. Et vous allez assurer de plus en plus quand les choses vont se mettre en place de manière plus correcte, plus équilibrée. C'est normal, Hélène, c'est logique de vivre ça après une séparation aussi fraîche que ça. C'est normal. Personne ne divorce avec un enfant en bas âge en disant au bout de 2 mois, tout est super bien calé, on est tous très heureux, tout va bien. Non, ça serait dans un monde merveilleux, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment, ça fait bouger tout le monde. Ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les places et qu'il faut que chacun retrouve sa place. Et vous êtes en train de tout faire pour, donc ça va se faire, il n'y a pas de raison.
Ok.
Et puis les choses vont se passer différemment que ce que vous avez imaginé. C'est aussi ça, la vie. La vie, c'est des changements permanents qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas imaginé, mais qui arrivent. Et vous allez apprendre à surfer sur la vague. Pour l'instant, elle vous noie un petit peu la vague, mais vous allez apprendre à la surfer après. Puis votre petit bonhomme, il va grandir autrement que ce qui était prévu, mais il va très bien grandir et il sera entouré d'amour et il ira très bien.
C'est ça qui est difficile à me dire, c'est que je le vois tellement en souffrance, en stress, que j'arrive pas à me projeter en me disant ça va passer.
Mais bien sûr que ça va passer, vous êtes au cœur du cyclone pour l'instant, c'est normal. Bien sûr, ça va se stabiliser, tout ça. Pour lui, pour vous et pour son papa. Une fois de plus, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça se stabilise et que chacun trouve une place dans laquelle il est bien. La seule chose qui compte, c'est l'amour. Et l'amour, il est là. Et oui, mais c'est extrêmement important. Il y a tellement d'enfants qui n'en ont pas. Ils ont beau être avec un parent, avec l'autre ou avec les deux, mais ils ne sont pas aimés, ils ne reçoivent pas tout ce que votre petit garçon reçoit. Alors certes, ce n'était pas le scénario idéal. Ben oui, malheureusement, la vie, ce n'est pas toujours un scénario idéal. Eh bien, on fait avec, il va aussi apprendre et grandir et probablement trouver des ressources en lui et des forces d'avoir aussi vécu ça. C'est aussi ça, la vie. Malheureusement, ce sont les épreuves qu'on vit même tout petit et qui nous font grandir. Mais il va grandir aussi avec ça.
Ouais. Je trouvais que ça faisait petit pour...
Pour apprendre la vie.
Ok. Ouais.
Non, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour apprendre la vie, vous savez. Ouais. Il n'a pas perdu sa maman ou son papa, il les a toujours. Ouais. Là, on pourrait parler de traumatisme. Là, vous êtes là, vous êtes vivante et son papa aussi. C'est juste qu'il y a un problème de place pour le moment. Ça va se poser. Et vous avez peur et c'est normal d'avoir peur. Parce que vous n'aviez pas prévu que ça se passe comme ça. Vous ne savez pas si vous allez arriver à vivre sans lui pendant plusieurs jours. Vous vous rendez compte que c'est très difficile, évidemment. On est fusionnel avec eux quand ils sont petits, comme ça. Puis vous verrez un jour si je peux vous dire un peu ce que me racontent les gens qui sont divorcés depuis plus longtemps. Pas tout de suite, mais dans quelques temps, ils se disent « Si finalement, une semaine sur deux, c'est chouette, parce que pendant cette semaine-là, je peux voir mes copines, je peux voir mon nouveau copain, je peux vivre pour moi. » Il n'y a pas que du négatif après dans une garde alternée, vous verrez. Et pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour vous parler de ça, mais vous verrez qu'un jour, vous direz ça à vos copines. « Ah, j'ai une semaine pour souffler aussi, ça fait du bien.
» Non, mais enfin, oui, je le perçois déjà aujourd'hui. Hein, qu'il n'est pas avec moi, même si sur les courtes durées, j'ai une autre façon de fonctionner, une autre respiration dans mon rythme, hein, c'est sûr. Qui était compliqué à trouver quand on était en couple, en fait.
C'est pour ça que je vous dis, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place que vous n'imaginez pas encore maintenant, mais qui vont évidemment se mettre en place. Ça ne va pas rester comme ça. Là, j'ai vraiment cette image d'un virage, vous savez, un peu comme dans un cartoon, quoi. Un virage, vous êtes tous les trois complètement couchés sur le côté, un peu sonnés par la vitesse. Il faut l'aborder correctement, ce virage, et vous poser des bons rails derrière pour que les choses soient plus sereines pour tout le monde. Et ça va, évidemment, ça va se faire.
Quand vous dites qu'il faut que chacun trouve sa place, vous pouvez expliquer un peu plus?
Déjà sur ce rythme pour le petit, qui est un rythme vraiment calé, et si ce n'est pas un rythme calé officiel, c'est-à-dire si on partait sur une semaine sur deux, un week-end sur deux chez son papa et le reste chez vous, c'est la version officielle. Vous pourriez aussi, avec le papa, instaurer une version officieuse. En disant, écoute, moi, je ne veux pas que tu perdes trop ta place auprès de lui. Donc, si tu as envie de le prendre un soir de la semaine pour aller boire un petit chocolat avec lui, pour lui parler, pour jouer avec lui, tu peux avec plaisir le faire. Si tu as un souci un week-end, ou inversement, on peut aussi s'arranger entre nous. C'est laisser de la marge, ouais, de la souplesse.
Ouais.
Une fois que les choses sont structurées sur le plan juridique, c'est mettre de la souplesse pour que chacun puisse prendre sa place sans se sentir brimé ou agressé par l'autre. C'est mettre de l'huile dans les rouages, vous voyez. Et votre fils, il va le sentir. Et s'il sent que ça roule entre vous, il sera bien.
Oui, c'est sûr. Ouais. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a encore des tensions. C'est fou, hein, quand on se sépare, on se rend compte qu'avoir vécu autant d'années avec quelqu'un... Les sujets, avant, ça ne posait pas de soucis, comme l'argent, et là, ça en devient des problèmes.
Il y a un ami qui me disait récemment, quand on commence à ne plus supporter les bruits de bouche de son conjoint, c'est qu'il est divorce moins quart. J'ai bien aimé l'expression, parce que c'est vraiment ça. Quand on en arrive à ne plus supporter les bruits de bouche de son conjoint, il est divorce moins quart. Oui, c'est ça. Et oui. C'est évident que quand on n'a plus les mêmes relations de couple, chaque chose pose un problème. Ce qui n'en posait pas avant devient à négocier à chaque fois. Mais une fois que ça sera négocié, une fois que ce sera posé, ça va se calmer. Évidemment, ça va se calmer.
Ouais, c'est ce que j'ai perçu là, parce qu'on est justement sur la vente de la maison. Je sens qu'une fois que, on va dire, le gros du financier va être passé, ça va déjà apaiser les choses.
Mais j'en suis persuadée. Laissez un peu de temps au temps pour que les choses se mettent en place. Mais en même temps, quand je vous dis ça, ça va être rapide pour le petit, parce que de toute manière, il y a des décisions qui vont être à prendre là, bientôt, mais on va dire qu'entre maintenant et le mois de mars, ça sera fait.
Ouais, je ne sais pas si ça me paraît tellement loin, vous voyez. C'est mon caractère comme ça.
C'est 8 semaines, hein, c'est rien, 8 semaines.
Ça me paraît tellement énorme. Mais je me dis, mais c'est 8 semaines de trop pour lui.
Si ça se trouve, ça sera réglé avant. Il y aura une solution qui va se mettre en place avant. Je vous dis ça parce que ça me paraît raisonnable de se dire, voilà, on se laisse 2 mois pour mettre les choses en place correctement. Tant mieux si c'est en 2 semaines. Vous verrez bien.
Oui, bah, ça ne sera pas en 2. Mais même si c'est 8, hein, 8 c'est bien aussi. Mais ça, je voulais vous partager. Ça me fait tellement... d'inquiétude pour mon enfant, en fait. Il y a encore 8 semaines comme ça. En fait, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est voilà, de ne pas savoir quand ça va être mieux.
Et oui, je comprends. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais enfin, rappelez-vous quand même qu'il n'a pas perdu son papa, il n'a pas perdu sa maman. Vous êtes là tous les deux, vous l'aimez. C'est comme ça l'essentiel.
D'accord.
Le reste se mettra en place autour de ça, mais il faut vraiment que l'amour soit le pilier de cette relation à trois. L'amour entre son papa et lui, entre vous et lui, puisqu'il n'y a plus d'amour maintenant entre cet homme et vous. Ce qui compte, c'est tout ce que le petit va recevoir comme amour des deux côtés. Et ça ne changera pas. Ce sont les grands qui divorcent. On ne divorce pas avec son enfant.
Hein. Non.
Ben oui. Et puis, vraiment, que ce soit avec le jeu que je vous ai suggéré ou autre chose, incitez-le à exprimer ses émotions. Dites-lui qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit d'avoir peur. C'est très important justement pour l'apaiser.
Ouais, je vais bien lui revenir. Ok.
Vous faites tout ce qu'il faut pour Hélène, ça va bien se passer maintenant, vous allez voir.
Ok.
Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous?
Ben, je pense que vous m'avez bien écouté. Vous m'avez rassurée.
Est-ce que vous aimeriez que des mamans qui traversent la même situation que vous appellent, par exemple?
Ah oh, oui.
Ça pourrait être sympa, ça. Je ne vous ai pas demandé votre âge. Vous avez quel âge?
43 ans.
43 ans, d'accord. Donc, si on a des mamans un peu dans votre tranche d'âge et qui vivent le même genre de situation, qui sont passées par là et qui auraient envie aussi de vous rassurer, de vous parler, on se permettra de vous transmettre leur numéro de téléphone.
Ouais, c'est très gentil. Ouais. Ouais.
Ça pourrait faire du bien d'échanger ça avec des mamans qui sont passées aussi déjà par là, qui connaissent tout ça. Je vous embrasse, Hélène.
Merci.
Et vous me rappelez quand vous voulez pour me raconter comment ça se passe, comment ça va mieux.
Comment ça va mieux, d'accord. Ça marche. Super, merci beaucoup.
Merci à vous, Hélène, au revoir.
Bonne fin de nuit, au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et si vous souhaitez entrer en contact avec Hélène qui vient de témoigner, vous nous envoyez un SMS 73921 suivi du mot nuit, un petit message et votre numéro de téléphone. Ou alors par mail libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr et nous lui transmettrons tous vos messages. Merci pour elle. Et c'est Aurélie que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous Aurélie.
Bonsoir Sabine.
Merci d'avoir merci d'avoir patienté. Merci à vous. Je sais que c'était long, mais voilà, il y a des soirs où c'est comme ça. Ça dépend des témoignages.
Ouais.
Bonne année à vous aussi. Alors, dites-moi ce qui vous amène, Aurélie.
Merci. Ben, en fait, vendredi dernier, ma gynéco, elle m'a appris que j'avais un cancer du sein droit avancé.
Ah.
Et qu'il fallait retirer le sein et les ganglions sous le bras. Et sur le coup, moi, je ne voulais pas, parce que je n'avais pas envie de me retrouver avec un trou à la place d'un sein à 43 ans.
Mm-hmm.
Mais elle m'a dit, vous n'avez pas le choix, le cancer est trop avancé, ça représente un risque trop important de rechute, donc il faut absolument tout enlever, quoi.
Oui, par sécurité, il vaut mieux, oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a, ouais. Il y a ce qu'on appelle la reconstruction mammaire après.
Hein. Ouais.
Vous n'allez pas donc forcément rester avec un trou, comme vous dites.
Ouais.
Heureusement, maintenant, ils font ça très bien pour les femmes qui le souhaitent.
Du coup, je vais être opérée mardi matin. Je rentre demain en fin d'après-midi à l'hôpital et je suis opérée mardi matin.
D'accord.
Et je ressors normalement, si tout va bien, vendredi. Donc pendant les 5 jours, là, c'est mon compagnon qui va s'occuper des jumeaux.
Quel âge ont-ils?
Ils ont 5 ans maintenant.
5 ans, d'accord. Mais vous me dites un cancer avancé, ça veut dire que vous n'avez eu aucun signe avant-coureur? Vous n'avez rien vu venir du tout?
Non. Enfin si, j'avais vu une boule, mais je ne me suis pas inquiétée, quoi.
Non.
C'est quand j'ai vu qu'elle était devenue plus grosse que là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème et qu'il fallait que j'aille voir ma gynéco.
D'accord. Est-ce que vous avez vu un oncologue déjà?
Non, pas encore. Je vais le voir à l'hôpital.
D'accord. C'est important ce qu'il va vous dire pour les suites de l'opération, ce qu'il envisage lui. C'est quand même un cancer qui se guérit souvent maintenant, vous le savez, ça.
Oui.
Parce que le mot cancer fait très très peur, mais maintenant, Dieu merci, on en guérit quand même souvent.
A priori, elle m'a dit qu'il y aurait de la chimio.
Mm-hmm.
Donc, ce serait
l'opération terminée.
Tous les jours.
Ah oui, non.
Ouais, une fois l'opération terminée, une fois tous les jours pendant 3 semaines.
Mm-hmm.
Après 3 semaines de repos pour permettre au corps de récupérer, parce qu'il paraît que c'est fatigant.
Oui, c'est très fatigant.
Et,
ouais.
Et puis après, de nouveau 3 semaines, une fois tous les jours. Et ça, ce serait entre 6 et 1 mois. Elle sait pas. Entre 6 et 1 an, elle ne sait pas encore.
Entre 6 mois et 1 an, oui. Ça, je crois que c'est plus l'oncologue qui verra ça avec vous. Et surtout, vous verrez au fur et à mesure comment votre corps réagit. Quelquefois, on fait des prédictions et puis ça peut être plus court ou plus long. Ça dépend de la réaction du corps.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'il y a quand même un schéma de bataille qui se met en place là, pour que vous surmontiez tout ça.
Voilà.
Bon, comment le prend votre mari?
Bah, mon compagnon, il l'a pas trop mal pris, quoi. Il m'a même bien soutenue.
Bon.
Je m'y attendais un peu, vu que ça avait grossi, mais j'ai quand même pris un coup sur la tête, quoi. Donc, il a été là pour moi. Le souci, c'est qu'on l'a pas encore annoncé aux enfants, ni au mien, ni au sien, et je sais pas comment le faire, quoi. Et on l'a pas annoncé à mes parents non plus, parce que ma mère, elle a perdu deux de ses sœurs de ce cancer-là.
Alors le problème quand on l'annonce aux parents ou aux proches, c'est que les autres instantanément vous projettent leurs propres angoisses. Et vous n'avez pas ouais. besoin de ça pour l'instant. Votre énergie, il vous la faut pour vous. Vous n'allez pas être en état d'absorber les peurs et les angoisses des autres.
Ouais.
Donc il va falloir être assez ferme là-dessus quand vous allez en parler pour dire attention à ce que vous me dites parce que je ne suis pas là pour gérer s'il vous plaît vos peurs et vos angoisses vous-même.
Ouais, mais je ne sais pas comment en parler en fait. Comment je peux l'annoncer à mes enfants?
Alors, les enfants, c'est vrai que c'est plus délicat. 5 ans, c'est s'ils sont encore petits. Ouais. Je pense qu'il faut le faire avec les mots les plus simples du monde. En disant que maman a une maladie, qu'elle va être opérée, que ce sont des choses qui arrivent. Peut-être vous faire aider avec un livre. Il doit exister des livres d'anatomie et des choses comme ça pour leur expliquer ce qui se passe de manière le plus simple possible. Quand il y aura la chimio, je pense à ça parce que j'ai une amie qui m'a expliqué comment elle a fait à ce moment-là. Ils vont vous voir mal parce qu'on n'est pas bien quand on sort de la chimio.
Mais bah ouais.
Elle leur a expliqué que c'était, ce qu'elle allait avoir, c'était comme les vaccins. C'est-à-dire que ça fait mal, il y a des effets secondaires, mais c'est pour aller bien après. Ça, ils peuvent le comprendre. Mmh. Ils ont eu des vaccins eux aussi. Pour dire, voilà, maman, elle n'est pas bien parce qu'elle a, voilà, elle a quelque chose qui est comme un vaccin. Puis après, ça ira mieux.
Il ne faut pas que... Ouais. Allez-y.
Non, dites-moi.
Donc, il ne faut pas que je leur dise que j'ai un cancer, quoi.
Évitez le mot à 5 ans. Je pense qu'ils vont avoir du mal à comprendre et ça risque de se mélanger
ouais.
un peu dans leur esprit.
Ouais.
Et puis, je pense à deux choses. J'ai une page Facebook qui s'appelle Sabine Marin Public,
ouais.
sur laquelle j'ai mis, justement, il y a quelques jours, un témoignage extraordinaire de Clémentine Célarier, la comédienne.
Ah oui, je l'ai vu.
Vous l'avez vu? C'est vraiment ouais. la manière dont elle parle de son cancer, je trouve que c'est formidable. Quel beau message elle transmet. Et je vais mettre pour vous demain une lettre qui a été écrite par une femme qui avait un cancer du sein et qui a été réécrite par Jacques Salomé. Le titre m'échappe. Je crois que ça s'appelle le cancer qui voulait prendre la première place dans la vie d'une femme. Et elle parle justement
ouais.
de comment en parler à ses amis, de comment réagir. Si vous le voulez bien, demain je mettrai ça sur ma page.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'est il faut vraiment vous protéger de tout ce qui pourrait être brutal pour vous. Et malheureusement, les gens sont très maladroits par rapport à la maladie. Soit ils ne savent pas quoi dire, soit ils disent des sottises, des choses qu'il ne faut pas dire.
Ouais, bah pour l'instant, la personne qui est au courant, mes parents ne sont pas au courant non plus.
Est-ce que vous êtes obligé de leur dire aussi rapidement? Est-ce que vous n'avez pas envie finalement d'avancer un petit peu avec votre mari en boule, dans votre bulle à tous les deux, et puis d'en parler peut-être après aux autres?
Si, peut-être que ce serait une bonne idée. Mais ils vont s'en rendre compte aussi.
Bah, ça dépend à quel rythme vous les voyez. Et s'ils sont près ou loin de chez vous, c'est toujours pareil.
Non, ils sont à une demi-heure de chez moi, donc je les vois. Bah, normalement, je les vois tous les mercredis parce que je dépose mes enfants le mercredi. Mais comme là, il y a les vacances qui arrivent, ils vont aller au centre aéré, donc je peux les mettre aussi le mercredi au centre aéré.
Moi, je vous dirais d'attendre d'être un peu plus solide vous-même pour pouvoir en parler aux autres, vous voyez. Pour que vous ne vous
ouais.
écrouliez pas si quelqu'un a une parole maladroite, parce que malheureusement, c'est toujours le cas. Vous avez toujours un petit malin qui va vous dire « Ah ben, ma mère, elle avait la même chose, elle en est morte. » Ben, voyons. C'est, malheureusement, il
ouais,
faut...
Ben,
oui
ça, je le sais, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ma mère, elle a perdu deux de ses sœurs de ce cancer-là.
Mais il faut vous préparer à ça et vous protéger contre tout ce que vous allez entendre. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que, quelquefois, attendre un peu d'être un peu plus solide vous-même, de savoir où vous allez, d'avoir vu l'oncologue.
Ouais.
Et quand vous serez plus solide, de commencer à en parler. Puis avec
D'accord.
les enfants, être juste factuel. En disant, voilà, maman a une maladie qu'on va soigner. Et puis voilà, il y a des fois, je ne serai pas bien parce que j'aurai un traitement. C'est juste ça.
Et pareil avec les enfants de mon compagnon.
Quel âge ont-ils?
7 et 8, et le petit garçon, il aura 9 ans au mois d'avril.
Ils sont un peu plus grands, on peut adapter un discours un peu différent. À 9 ans, on peut entendre parler d'un cancer, mais si vous pouvez éviter, c'est peut-être mieux aussi.
Oui, parce qu'après, ils risquent d'aller en parler avec mes enfants.
Déjà, et puis les enfants, entre eux, peuvent se dire n'importe quoi aussi. Ils entendent des choses, ils vont regarder sur Internet. À 9 ans, il peut aller voir des choses sur Internet, le plus grand.
Ouais.
Donc, restez flou. C'est maman et papa qui gèrent, voilà. J'ai maman un souci de santé, c'est maman et papa qui gèrent. Rassurez-vous, si je suis pas bien, papa sera là, pour vous et pour moi, et puis voilà. Et puis vraiment, avancer étape après étape, jour après jour, pas après pas.
Ouais.
Non. Je vais vous mettre demain cette lettre, je suis sûre que ça va vous faire du bien de la lire, cette lettre qui est merveilleusement bien écrite. Et vous allez vous retrouver dans ça, et j'espère que ça va vous aider à affronter tout ça. Et puis vous allez voir vraiment maintenant, Dieu merci, ça se guérit quand même beaucoup. Hein. Je sais que le mot est très effrayant, mais oui, bien sûr.
Que maintenant on en guérissait de plus en plus.
La médecine a fait énormément de progrès, on a beaucoup de techniques à notre disposition. Et même si le mot reste effrayant, on peut vivre avec un cancer, on peut vivre en ayant eu des cancers, même plusieurs. Il y a des gens qui vont très bien après avoir traversé plusieurs cancers. C'est un parcours, mais c'est un parcours dont on peut sortir la tête haute, vous voyez.
Ouais.
Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, Aurélie. Je sais que là, c'est un coup de massue sur la tête, c'est évidemment.
Ouais, là, je suis stressée pour mardi.
Bah, j'allais dire, ne le soyez pas, parce qu'il faut attaquer commencer la bagarre, là, maintenant. Il ne faut pas perdre de temps.
Hein. Ouais.
Et quand vous serez dans l'action, ça sera mieux que d'être en train de cogiter, d'attendre, justement, sans savoir. Mettre un plan de bataille en marche, avoir des échéances, savoir ce qui va se passer, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
D'accord.
Devenir actrice, si vous voulez, de votre guérison, parce que là, vous êtes plutôt un peu sur le banc de touche. Vous regardez ce qui se passe et vous dites, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé, là?
Ouais.
Alors que là, vous allez vous mettre en action. Avec en ligne de mire, guérison. Mon objectif 2022, guérison.
Ouais.
Pensez aussi
à l'opération, puis après, la guérison, quoi.
Pensez à demander aussi à faire des thérapies parallèles comme la sophrologie pour vous apaiser pendant la chimio. Je sais qu'il y a la thérapie par la musique, par la danse. Peut-être toutes ces choses qui peuvent... Les massages aussi, bien sûr. Tout ce qui peut aider votre corps et votre mental à passer toute cette épreuve.
Ouais. Et j'ai une cicatre aussi, je peux en parler.
Bah évidemment. Évidemment. Plus vous allez pouvoir mettre des mots sur tout ça, extérioriser tout ce que vous, toutes les peurs, plus ça vous aidera.
D'accord.
Et puis effectivement, passer par plein de choses qui peuvent vous faire du bien. Puisqu'il y a quelque chose qui vous fait du mal, beaucoup d'un côté, vous allez compenser par plein de choses qui vous font du bien. Nutritionniste aussi, très important quand il y a un cancer. Changer son alimentation pour aider le corps.
D'accord.
Hein, toutes ces choses-là.
Moi, je ne le savais pas, ça.
Bien sûr, c'est important. Dès que vous pourrez, voyez quelqu'un qui pourra vous aider aussi là-dessus.
D'accord.
D'accord, Aurélie. Je vous envoie plein de courage, plein de belles énergies.
Merci.
Et je suis sûre que ça va bien se passer. Vous me rappellerez dans quelques temps pour me dire comment ça s'est passé, tout ça, d'accord?
D'accord.
Je vous embrasse très fort.
Merci, moi aussi.
Au revoir, Aurélie.
Au revoir.
C'est terminé pour ce soir. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 23h pour de nouveaux échanges et de nouvelles confidences. D'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook Sabine Marin Public. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Si nous étions plus conscients que nous pouvons tout perdre en une seconde, il y aurait sûrement moins de méchanceté autour de nous. Passez une bonne nuit et à vendredi prochain.